Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Christophe Battier. Christophe, peux-tu te présenter ?
Bonjour tout le monde, bonjour Laurent, merci de m'inviter chez toi, parce que c'est ton podcast.
Ouais, je t'en prie.
Je pourrais me la péter et me dire, je suis le maître de à penser de Laurent, mais c'est pas vrai. T'as suivi un de mes MOOC et j'ai appris ça discutant avec toi récemment, donc je suis content que ça ait été un peu bouleversé, parce que c'était un peu le but du jeu de ce MOOC. Mais sinon, dans la vraie vie, je travaille dans tout ce qui est accompagnement de projets numériques et enseignement depuis le siècle dernier. J'ai travaillé longtemps à l'Université Lyon 1 sur des projets d'innovation pédagogique. Alors, soit juste pour mettre un site web en ligne, mettre des plateformes en ligne, mettre des communautés de 30 à 40 000 personnes en ligne, mettre des projets comme ça, avec des réalisations assez sympas autour de la vidéo comme l'anatomie 3D. Tapez Anatomie 3D Lyon sur YouTube, vous trouverez une chaîne YouTube, des cours d'anatomie en 3D avec des dizaines de millions de vues en français, en anglais, en italien, enfin plein de langues. J'ai aussi pas mal bourlingué un peu partout parce que du coup, j'ai toujours utilisé les réseaux sociaux pour expliquer un peu ce que je faisais et puis partager un petit peu, puis aller aussi chercher des informations ailleurs. Je suis avec un garçon un peu curieux de voir comment ça se passe un peu partout. Alors quand je dis un peu partout, c'est dans le monde francophone, mais pas que, aux États-Unis, un peu sur tous les continents. J'ai fait aussi pas mal de conférences, de formations. J'ai un blog assez complet. Vous tapez Battier blog, vous devrez tomber sur mon blog en quelque part avec des choses autour de tout ce qui est innovation, de tout ce qui est nouvelle pédagogie, tout ce qui est numérique, tout ce qui est aujourd'hui intelligence artificielle, tout ce qui est utilisation des médias dans l'enseignement, tout ce qui est mutation du métier d'enseignant, parce que ça a un impact fort, toutes ces mutations sur nos métiers d'enseignant et de formateur, parce que je crois que tu t'adresses aussi aux formateurs,
peut-être tout à fait.
Préférentiellement aux formateurs, je ne sais pas.
Oh, je n'ai pas de préférence.
Tu n'as pas de préférence, voilà. Mais donc, ça a des répercussions assez fortes. Et moi, j'essaye d'accompagner les enseignants dans ces mutations-là ou les institutions. Donc, ça peut être des gouvernements, des présidences d'universités, des équipes TIS, des équipes pédagogiques. Voilà, il y a vraiment tout détail en fonction de tout type de projet d'accompagnement. Et ensuite, j'ai travaillé aussi pendant 4 ans à l'Université de la Polynésie française, de 2018 à 2022. En petite taille, j'étais servi. On était 2 dans l'équipe quand je suis arrivé à l'université. Là aussi, pareil, pour mettre en place des studios vidéo, pour filmer des cours, on a basculé toute la formation continue en ligne, ce qui était vraiment une nécessité dans ces pays-là avec la Polynésie, c'est grand comme l'Europe, hein, mais il y a 300 000 habitants sur une surface grande comme l'Europe, donc c'est vraiment des confettis. Et le grand plus qu'ils ont sur ce territoire, c'est qu'il y a de la fibre sur tous les archipels. Ouais. Quasiment tous les archipels, donc sur presque pas toutes les îles, mais une grande majorité où là, il y a le plus de population, il y a du haut débit. Et donc, on a pu déployer des formations, des campus connectés sur 5 archipels. Voilà, un projet sympa.
Ouais.
En rentrant de la Polynésie, c'était l'heure de l'IA. 2022. C'est l'heure de l'IA, l'heure a sonné. Ces grandes vagues d'innovation qu'on a connues, alors 96, c'est l'arrivée du web. 96 à 2000, c'était l'arrivée du web. C'était la fin du CD-ROM et du DVD. En 98, on avait déjà mis en place à Lyon 1 toute une série de sites web, d'enseignements sur des sites web. On a développé une plateforme. Enfin, on avait pas mal de choses autour du web. Ensuite, il y a l'arrivée du streaming vidéo qui a changé pas mal de choses. Toutes les techno-vidéos aussi qui ont beaucoup évolué, qui permettent de diffuser des contenus plus sympas que des simples PDF. Et on a eu quoi comme évolution encore? La 3D, tout ce qui est immersif, toutes ces les évolutions de technologie autour de l'immersion, de l'immersif. Si ça vous intéresse, j'ai pas mal de billets de blog sur Laval Virtual qui a lieu au mois d'avril bientôt à Laval en France, en Mayenne. Je fais un peu de pub, hein, au passage. C'est un endroit, si vous êtes intéressé par tout ce qui est pédagogie, immersion, il faut absolument y aller. Lâchez tout et courez-y. C'est vraiment extraordinaire, c'est d'avoir la chance d'avoir un événement et pouvoir participer à ça, c'est vraiment bien. Et donc, aujourd'hui, on a l'IA qui a un impact fort sur nos vies, enfin, qui va avoir et qui commence à avoir un impact fort sur nos métiers, nos vies et sur l'enseignement. Donc, j'ai bossé pendant un an dans une start-up qui s'appelle Evidence B, qui propose des solutions d'adaptive learning. Alors, l'adaptive learning, c'est pas nouveau, proposer des activités, des exercices pour faire progresser les élèves, les étudiants, les apprenants dans des matrices d'exercices. Avant, ça se faisait avec des graphes décisionnels. Si tu sais faire 1 plus 1, ben, on pense que tu peux faire 2 plus 2. Je caricature, mais c'est un peu ça. Si tu fais 2 plus 2, tu peux faire 3 plus 3. Et donc, Evidence B a développé des solutions. Et ce qui m'a aussi plu dans cette start-up, c'est que ça a une connexion très forte avec la recherche. C'est-à-dire que toutes les activités, c'est pas des simples exercices 1 plus 1, 2 plus 2. C'est des exercices qui sont développés avec des chercheurs en sciences cognitives et en neurosciences pour des gens qui cherchent à comprendre comment marche le cerveau des petits ou des enfants pour apprendre à calculer en développant des compétences, notamment sur la spatialisation, des choses comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'activités qui sont basées à partir de ces travaux de recherche. Et la solution est déployée dans toutes les écoles primaires en cycle 2, donc c'est-à-dire du CP au CE2. Ouais, c'est ça. Dans toutes les écoles en France, c'est dans le cas du P2IA. Donc chaque école a accès gratuitement à cette solution-là. Et là, depuis le mois de février, le mois dernier, une solution qui est adaptée pour les secondes s'appelle Mia Seconde, une solution de remédiation en français et en mathématiques pour tous les élèves en seconde. Alors, il y a une première phase de test sur 200 000 élèves là qui est en train de se mettre en place et à la rentrée de septembre 2024, ça sera sur les 800 000 élèves de seconde. Et en même temps, pendant ce temps-là, moi, j'ai participé à un déploiement sur New York parce que la ville de le New York District School, c'est quand même 1 million d'élèves, hein, a choisi la solution aussi sur New York. Donc, j'ai aidé à participer à mettre en place l'équipe sur New York et j'ai piloté plusieurs projets aussi sur l'Afrique où... on teste cette solution, notamment au Sénégal, Côte d'Ivoire, pour voir un petit peu comment on peut déployer ça dans ces solutions-là, dans des écosystèmes pédagogiques et technologiques un peu différents de ce qu'on a en Europe ou aux États-Unis. Voilà un peu pour mon parcours. Et puis, quand j'ai un peu de temps, je participe aussi à plusieurs... communauté, moi j'aime bien le travail communautaire, notamment autour de Ludovia. Ça fait plusieurs années que je participe à des Ludovia qui sont des rassemblements de formateurs, d'enseignants, de chercheurs autour de tout ce qui est nouvelles technologies, usage du numérique en classe, de la maternelle à l'entreprise, en passant par l'université. Donc, on est ce qu'on appelle, moi je suis blogueur. C'était l'ancien terme à Ludovia. Donc, on constitue un peu le programme, la chatte éditoriale, les sujets qu'on traite à Ludovia. Donc, en France, c'est au mois d'août, fin août en Ariège, avec une super équipe avec Eric Fourcault. Participé à la mise en place du premier Ludovia en Suisse il y a quelques années. Et là, cette année, le mois prochain, ça va être la 4e édition en Suisse. J'ai fait 2 Ludovia en Belgique et j'ai évidemment monté 1 Ludovia en Polynésie. Il y a eu la 6e édition le mois dernier. Voilà. Bon, et on va faire un Ludovia spécial intelligence artificielle le mois prochain, en avril, le 10 avril, en ligne. L'impact de l'IA dans les métiers de l'éducation. Voilà, ouais. L'impact de l'IA en classe. Donc, c'est un sujet... Et en ce moment, donc j'ai lâché l'entreprise, la start-up. Je suis retourné à l'université Lyon 1. Je suis autour de la direction du numérique. Je m'occupe de tout ce qui est IA à l'université pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces trucs-là dans nos institutions pour aider les étudiants, pour aider les personnels techniques autour des usages pour faciliter, changer les métiers qu'on a à l'université. Ben voilà, j'ai fait un petit résumé. J'ai été trop long, 9 minutes. Oh mince.
Non, c'est cool. Bah, c'est bien, ça nous permet de voir un petit peu ton panel et l'évolution aussi qu'il y a, hein, de se tenir au courant de toute cette évolution, de ce qui fait notre vie quotidienne, hein, mais bon, sur un peu plus de 2 ans. Voilà. Et dis-moi du coup, Christophe, de quoi tu veux nous parler alors aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on doit parler de vidéo. On va parler de vidéo pédagogique, plus précisément. Parce que comme je l'ai évoqué, ça a été un moment. Les technologies ont fortement évolué. Faire de la vidéo, avant les années 2000, même 2010, c'était une galère. Il fallait une équipe, il fallait des équipements, il fallait des bandes de montage, il fallait des caméras. Il fallait dérusher, il fallait numériser, il fallait monter, il fallait faire la post-prod. C'était compliqué, c'était long, c'était cher. Et toutes ces technologies-là ont fortement évolué. Rien qu'à voir la qualité des webcams maintenant sur les ordinateurs, on peut se voir, on peut faire des trucs sympas avec des petites webcams qui sont incluses dans nos ordi. Le streaming a changé la donne sur Internet et sur nos vies. Hein, l'impact de YouTube, c'est juste inconcevable. Ça fait partie de la vie concurrente, mais faut rappeler les chiffres. C'est 200 heures de vidéos qui se déposent par minute en ce moment sur YouTube. 200 heures de vidéos par minute. Alors, c'est-à-dire que si on s'arrête pendant une minute, on veut regarder toutes les vidéos déposées sur YouTube pendant une minute, il faut plus de 10 jours. À peu près 10 jours. Alors, on va me dire, oui, mais monsieur Battier, sur ces 200 heures, il y a bien 150 heures de chats qui tombent des chaises. Ah, je suis d'accord avec vous.
C'est possible.
Il y a même peut-être pire que ça. Mais vous avez tous les cours de toutes les universités. Mais vous avez des contenus des documentaires d'Arte, vous avez des interviews des start-upers, vous avez tous les gens qui font de l'IA en ce moment, il y a toutes leurs interviews, les détails des algorithmes qu'ils font, il y a plein de tutos, il y a plein de formations, il y a plein de présentations, il y a plein des émissions historiques. Même pour des contenus pour présenter à des élèves, mais c'est hallucinant.
Ouais.
Allez regarder. Enfin, on utilise trop YouTube pour le divertissement et pas assez comme un outil sérieux.
Mmh.
Alors que ça peut être vraiment un outil super intéressant pour les formations et pour les formateurs et pour les apprenants. Alors ça s'est un peu détérioré parce qu'il y a beaucoup trop de pubs maintenant.
Ouais,
donc il faut tout le temps, il faut toujours emballer ça dans une plateforme pour pas que les étudiants soient dispersés parce que on est vite parti ailleurs. Donc restez focus sur le contenu, mais c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant, tout ce qu'on peut trouver en vidéo, tous les cours du Collège de France. Enfin, c'est comme on a appris à se faire une bibliographie d'articles scientifiques. Moi, je conseille toujours aux enseignants, aux formateurs avec qui je travaille. Ben avant de se lancer dans la production de vidéos, allez voir tout ce qui existe, tout ce qu'il y a, et faites-vous des playlists. Hein, quand on a un Gmail, on a un compte sur YouTube, et quand on a un compte sur YouTube, on peut se faire des listes de cours, de contenus intéressants à voir ou à revoir, et catégoriser ça un petit peu. Et le faire directement sur YouTube, ça fait gagner du temps parce que si vous le retrouvez sur votre application, sur votre iPad, sur votre téléphone portable, etc., etc. Donc ça permet de faire pas mal de choses. Et ça donne des idées, ça donne du contenu, voilà.
Tu vois, c'est assez marrant parce que j'avais proposé moi des vidéos à mes étudiants. Ils me disaient, monsieur, mais c'est pas vous qui l'avez faite alors la vidéo. Bah, j'ai pourquoi voulez-vous que je refasse un truc moins bien que ce qui existe ou fait ? Et ça fait penser aussi que l'enseignant a une désappropriation de la connaissance. Et là, pour la transmettre, pas forcément pour la détenir. C'est une autre façon de percevoir les choses, c'est de dire, moi, j'ai pas honte de leur dire, écoute, c'était mieux que ce que j'aurais pu faire.
Mais alors là, tout de suite, je mets l'eau là. Est-ce que c'est l'enseignement, et est-ce que le rôle de l'enseignant, c'est uniquement de transmettre du contenu ?
Bah, justement, non.
Voilà, c'est-à-dire que effectivement, moi, j'ai des enseignants qui se sont appuyés, même quand j'étais gamin, sur des bouquins, sur des livres, sur même des films qu'on voyait au lycée ou à l'école. Donc, il y avait déjà, même si c'était plus compliqué, ça se faisait pas beaucoup, ça se faisait déjà. Et le rôle de l'enseignant, c'est pas nécessairement un rôle d'éditeur et d'édition de contenu. Jusqu'à là, c'est lui qui était le passeur du savoir, le passeur du contenu. Mais c'est plutôt, je sais qu'il y a un truc intéressant, le contextualiser, motiver les élèves, les apprenants, pour dire, dans le contexte d'information où on est, il y a cette chose-là qui peuvent vous intéresser. Et c'est là aussi où j'insiste. sur la vidéo, il y a les vidéos pédagogiques, ce n'est pas uniquement du contenu pédagogique. Là, on en a parlé que de ça, parce qu'il y a plein de choses qui existent, on peut en faire, parce que c'est quand même le cœur du cours, c'est le contenu, hein, l'activité, l'expert métier qui vient raconter son savoir-faire, l'expert, le connaisseur d'une loi, d'un truc juridique qui vient le présenter, etc., etc. Donc, il y a évidemment un contenu académique, un contenu théorique, mais la formation, elle ne s'arrête pas là. Et le rôle de la vidéo, elle ne s'arrête pas là. Et le rôle du formateur, il est aussi important. Ça aussi, c'est important à rappeler. C'est que c'est facile pour les formateurs de faire des vidéos et ne pas se limiter aux vidéos de contenu. Alors, c'est mieux s'il a le temps, s'il veut se faire plaisir de faire des vidéos de contenu, parce que il donne son rythme, il donne sa vision, il donne sa... il montre son savoir-faire, etc., etc. Mais l'enseignement s'accompagne de tout un tas d'autres formes de vidéos. Moi, je me suis amusé à regarder un petit peu, à catégoriser un peu ça. J'en ai identifié 5 ou 6, hein, des formes de vidéos. On a déjà tous vu les vidéos teaser. Moi, ce que j'appelle les vidéos teaser, dans le cadre des MOOC, il y a eu la mode des MOOC dans 2012, 2013, 2014. Là, j'ai oublié d'en parler des évolutions. Les MOOC, ça a été quand même aussi un point marquant. On a tous vu des MOOC, des petites vidéos de 2-3 minutes. Et, venez suivre mon MOOC, vous allez trouver ça, on va parler de ceci, inscrivez-vous, et des trucs comme ça. Donc, c'est une petite vidéo assez courte qui prend de la formation, qui donne envie aux gens de suivre la formation. C'est de la com, hein. C'est un format de communication. Donc, tu as cette vidéo de teaser. Mais c'est déjà de la pédagogie, parce que déjà... tu éveilles la curiosité, tu mets en appétit ton apprenant, tu dis voilà, allez voir, je vais vous montrer des choses.
J'utilisais ça, moi, tu sais, sur le format Mission Impossible, tu sais, j'arrivais, j'avais le bruit, tu sais, je mettais la musique derrière, j'arrivais en courant, tu sais, presque effaré, je me calais devant la caméra, je faisais alors attention, vous allez avoir une mission. Si vous l'acceptez, je partais directement dessus et je leur envoyais ça 48 heures avant, qu'ils aient le temps, tu sais, de bien aller commencer à se triturer le cerveau pour poser quelques ancrages qui allaient faciliter l'apprentissage derrière.
Exactement.
Ça, c'est des moments extraordinaires. Et je me souviens même de leur avoir dit de se filmer eux-mêmes. Ils disaient, ouais, non, mais on n'y arrive pas. Et d'avoir, tu sais, fait une prise de vue avec mon smartphone où sur mon micro, j'avais mis la photo d'une femme au milieu de... Enfin, sur ma caméra, au milieu de la caméra, et je la regardais dans les yeux pour pas quitter la caméra des yeux, tu vois. Et ils me disaient, putain, tu fais ça comme ça? Ben oui, parce que c'est compliqué de regarder une caméra, tu sais.
C'est très compliqué. Ouais,
même endroit, donc j'avais fait cette espèce de truc, ça les faisait marrer, mais ils attendaient ça, hein, ils attendaient. Alors c'est quoi la prochaine aventure? Ils parlent plus de cours, c'est quoi la prochaine aventure? Qu'est-ce que tu vas nous proposer?
Ça, c'est génial. Mais là, on est vraiment dans les registres de la com, donc là, c'est hyper varié, comme la pédagogie, hein, c'est hyper varié. Donc tu peux être dans le sérieux, tu peux être dans le ludique, tu peux être dans tous les thèmes que tu peux, mais c'est vraiment ce registre-là, et le format de la vidéo, c'est un format punchy et court. Avec des mots-clés, avec des choses qui marquent. Et ça demande beaucoup de travail, hein, à préparer des choses comme ça demande du travail. Ensuite, là, si on prend le déroulé du cours, ils sont appâtés par ton cours, ils viennent à ta formation. Et là, la première chose que moi, je conseille à faire, c'est une vidéo d'embarquement, de contenu, d'accueil, de syllabus, on donne le nom qu'on veut, ou... Ben voilà, bienvenue dans mon cours. Je vous accueille pour une séance, pour 10 séances en ligne, 5 séances. Et on dit comment va se passer le cours. Ouais. On explique ce qu'on va avoir dans cette formation-là, avec le contenu pédagogique qui sera découpé en 3 chapitres, en 10 chapitres. Enfin, vous expliquez. Et là, on est dans un truc un peu plus académique. Et vous explicitez, surtout sur les formations en ligne, hein, ce qui manque beaucoup dans les formations en ligne. La différence entre l'enseignement en ligne et le présentiel, c'est que dans l'enseignement en présentiel, il y a beaucoup d'implicites. Quand un formateur rentre dans une salle de classe, il y a énormément d'implicites, par la posture des élèves, des apprenants. Celui qui est au fond de la classe, on voit tout de suite s'il est là pour le radiateur, s'il est là pour nuire, s'il est là pour passer son temps. Et ceux qui sont au premier rang, on voit tout de suite s'ils ont envie, s'ils sont motivés, l'œil qui brille, etc., etc. Comment on retranscrit cet implicite dans les cours en présence, dans les cours à distance, pardon. Et là, il faut être hyper explicite et tout expliquer et tout essayer pour retrouver ces liens-là. Ces liens qui sont implicites dans le présence pour les rendre explicites à distance.
Moi, je leur disais toujours à mes formateurs quand je les accompagnais là-dessus, Ça va sans dire, bah, ça va mieux en le disant.
Ouais. Mais c'est exactement ça.
Totalement ça.
C'est ce qu'il n'y a plus d'implicite dans l'enseignement à distance. Oui. Tout doit être explicité.
Et du coup, on se rend compte, quand on se livre à cet exercice en tant que formateur, que effectivement, tout le non-verbal, tout ce que tu vois, toute cette petite attention que tu as, eh ben, tu n'y fais pas attention, mais c'est hyper présent. Et du coup, c'est compliqué de se mettre dans une dimension où ils ne sont pas là. Il faut quand même amener la formation.
Ouais.
Ça permet de repenser sa façon dont on distribue le cours aussi. C'est pas mal, ça.
Alors moi, ma formule, c'est donner de la vie au cours. Mmh. Ton cours en ligne, c'est si tu mets 3 PDF et puis tu leur donnes une consigne en disant bah, « il y a ça, ça et ça à faire pour cette semaine »,
bonne nuit.
Voilà.
Tiens. Bonne nuit, les petits.
C'est boring. Alors, donc t'as ton syllabus où tu vas donner le déroulé de tout ton cours. Et ensuite, bah, le cours, il commence le lundi à 14h et juste avant de commencer ce cours. Alors là, je parle évidemment pour des cours en ligne. Hein. Ouais, moi, oui. Je fais ce que j'appelle des vidéos de consignes. Donc, je travaille préférentiellement par thème et par semaine. Donc, quand on traite un thème, eh ben, je donne la consigne. Aujourd'hui, on va parler d'innovation, on va parler de processus pédagogique, on va parler de ceci. Et je donne toutes les consignes et on va faire tel exercice. J'attends de vous que vous voyez cette vidéo, que vous téléchargez ce PDF, que vous me produisiez ce truc-là, etc. Donc, je commence une séance pédagogique en faisant une vidéo spécifique sur les consignes, toutes les activités, tous les cadres théoriques qui font référence, etc. etc. Donc là, on n'est pas encore dans le cours, mais on commence vraiment à cadrer le truc. Et après, il y a toutes les vidéos de contenu. Alors que soit moi, je fais, soit que je récupère à droite à gauche. Et là, ils vont travailler les contenus. Et ce qui est important à la fin de cette semaine-là ou de ces activités-là, c'est de faire des vidéos, ce que moi j'appelle de débriefing. Donc, je prends toutes les traces qui ont été laissées par les étudiants, les élèves, les apprenants sur la plateforme ou sur les réseaux sociaux ou par mail. Et je fais une synthèse de tout ça. Donc ça demande vachement de boulot.
Ouais.
Mais machin m'a demandé ça, truc a dit ça aussi. Vous êtes 80% à avoir répondu au questionnaire avec un taux de réussite de temps. Vous êtes tous plantés sur cette question, donc je l'ai mal présentée. Je vous en reparle. Il y a un telle personne. Et quand je dis un telle personne, hein, mets un tweet, un truc. Je mets la photo, le nom de l'apprenant dans la vidéo. Ouais. Toi, je personnalise le feedback. Quand j'ai demandé des productions, je monte les productions, je commente les productions qui ont été faites par les élèves. Ouais. Donc une copie d'écran, je mets ça, et puis j'interviens là-dessus.
Ouais, c'est pareil. Là, mine de rien, tu vois, même quand tu passes pendant ta visio, tu passes les différents éléments, même s'il y a des éléments sur lesquels tu t'arrêtes pas, le fait que ce qu'ils ont produit se voit, c'est important pour eux. Et du coup, ça tient vachement leur attention, ça. Ils font gaffe à dire, tiens, mais c'est peut-être mon truc là qui va servir. Et puis pareil, moi, je fais comme toi, quand c'est bien, je montre sur ce qui a été fait par eux et je montre pourquoi c'est bien et pourquoi c'est le bon résultat. Tu vois.
Oui, bien, ou des fois, c'est pas bien.
Hein. Ouais,
et après,
c'est pas bien, je préfère, tu sais, plutôt extrapoler, moi, pour pas focusser sur les gens et les stigmatiser. Quoi.
Enfin, ouais. Oui, ça, oui, mais bah après, ça peut, tu peux...
Oui, ça peut être.
On fait tous des erreurs, ça toi de gérer le drame que tu donnes à l'erreur.
<C'est ça. rire>
Le niveau dramatique que tu donnes à l'erreur. Parce qu'il y a des cas où ça peut être nos métiers, pas trop, mais en pédagogie, pas trop. Mais quand tu es en médecine, tu te trompes d'un millimètre, le gars, il est mort, faut pas te planter.
Ouais, bah lui aussi, là, il n'a pas bougé. Hein,
ouais, mais enfin, il y a des niveaux aussi, enfin, sur l'erreur, ça dépend des cours.
C'est
Et
ça.
Puis, dernier type de vidéo aussi qui est importante en pédagogie, c'est toute la production des élèves, des apprenants.
Ah.
Tu peux leur demander, soit en individuel, soit en groupe, soit en binôme, enfin, il y a différents formats de travail, de te répondre ou de faire un projet en vidéo.
Mmh.
Donc ça, tu vois, c'est les grandes différents types de vidéos. Il y en a qui sont dans le registre de la communication, le teaser. Il y en a qui sont dans le registre de la motivation. C'est sur le syllabus, ça se projette. Tu dis, voilà, l'élève, il dit, ouais, je vais me projeter sur mon cours va durer un mois, deux mois, trois mois, six mois. J'aurai ça à faire, je vais voir ce que ça va donner telle compétence. Et ça permet d'organiser. Et ce qui est assez intéressant, ce type de vidéo, d'organisation, les élèves ou les étudiants vont le voir tout le long du cours. Si tu fais un cours pendant 6 mois, bah, cette vidéo, elle sera vue toutes les semaines, tous les jours. Il y a un qui va aller revoir cette vidéo. Voir, ouais. C'est en ça que c'est assez important. Évidemment, les vidéos de consignes, donc là, ça donne le rythme à ta formation. Le contenu, alors, pour bien réussir ces contenus de vidéo, là aussi, il y a des règles à suivre sur les vidéos de contenu. Il y a des chercheurs qui ont bossé là-dessus, c'est Mayer qui a fait les 12 principes de Mayer qui ont été publiés. D'ailleurs, il y a des super vidéos des collègues Jeff de l'université de Lausanne. Hein. Vous tapez sur YouTube les 12 principes de Mayer ouais. en vidéo et je tomberai sur un petit bijou de vidéo de pédagogique qui explique bien ça. Donc, ça va intégrer les 12 principes de Mayer. Comment bien réaliser une vidéo? L'importance, tu disais, de voir son enseignant, de personnaliser son enseignement. L'importance aussi dans les vidéos de la communication non verbale, de faire vivre sa pédagogie, pas uniquement par la voix, pas uniquement par l'image, mais par tout le mouvement qu'on peut mettre dedans. Okay. L'idéal, le format idéal, c'est des vidéos que tu fais dans des studios type RapidMOOC où tu es incrusté dans ton contenu et on peut te voir. On appelle le plan américain, ouais, c'est ouais. ça. Là. Mmh. Ouais, où ton corps devient une animation PowerPoint, mmh. où tu peux jouer avec les objets que tu fais intervenir dans ton PowerPoint. Et donc là, c'est quand on regarde l'impact de ces vidéos, parce que. Alors, toutes les plateformes ne le permettent pas, mais t'avais des plateformes, même sur YouTube, tu peux l'avoir, la durée de visualisation de la vidéo, le nombre d'étudiants qui viennent sur la vidéo, etc., etc., le nombre de fois où ils reviennent aussi. C'est assez hallucinant. Moi, j'avais fait des petites études, des petits retours sur des cours de pharmacie 4e année. Les vidéos, certaines vidéos étaient vues 6 fois par étudiant. Ah ouais. Ah ouais. Sur des trucs de 40 minutes, hein. Donc, des vidéos de contenu, hein. Et c'est là aussi, on dit la vidéo pédagogique doit faire 5 minutes. Non, c'est pas vrai. Vous voyez que la vidéo pédagogique, il y a plein de formats différents. Le teaser, c'est plutôt court, c'est max 2 minutes, 3 minutes. La vidéo de contenu de cours en elle-même, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus long parce que l'élève, lui, il peut faire stop, il peut revenir en arrière ou l'apprenant rien. Mais moi, je conseille pas de faire des choses trop longues. Alors, pas uniquement d'un point de vue pédagogique, parce que ça, c'est l'élève, l'apprenant qui gère son temps. Mais si pour vous, producteur de vidéos, c'est si vous plantez votre vidéo, vous êtes tout refaire, c'est du boulot. Et si l'année suivante, il y a juste 5 minutes que vous dites, bah, ça, c'est pas bon, je veux pas l'utiliser, bah, vous êtes obligé de refaire 40 minutes. Alors, si vous avez découpé des vidéos en tranches de 15, 20 minutes, bah, il n'y en a qu'une à refaire et pas tout à refaire. Vous voyez, là, il y a des petites astuces aussi côté enseignant, c'est que une fois que vous avez produit ces vidéos, les consignes d'une année sur l'autre, ça peut être à peu près les mêmes. Les contenus, ça peut être à peu près les mêmes. Le teaser, ça demande beaucoup moins de boulot et vous aurez plus de temps sur le suivi personnalisé, plus de temps sur les feedbacks, sur les retours, voilà. Et donc, ça change un peu le métier d'enseignant, c'est-à-dire qu'au départ, on est centré sur la production du contenu, de faire un beau cours, comme on a l'habitude, entre guillemets, de vouloir faire un truc bien chiadé, comme on faisait des beaux PowerPoint, des beaux PDF, on peut faire des belles vidéos. Mais l'année suivante, bah, si les vidéos sont réussies, elles ont eu un impact, bah, il y a moins à refaire, mais il y a toujours à refaire, entre 10 et 20% chaque année à refaire. Mais on peut avoir beaucoup plus de temps sur tout ce qui est débriefing, feedback, accompagnement, personnalisation, remédiation, etc. etc. Voilà.
Tu vois, moi, l'autre jour, on en discutait tous les deux. Moi, j'ai été jusqu'à faire les feedbacks en vidéo, c'est-à-dire que je reçois les questions. Ouais. J'affiche, tu sais, comme une pancarte avec la question et j'y réponds en vidéo. Ouais. Ça va très très vite pour faire du feedback personnalisé. Tu vois, je me concentre sur un mercredi matin pour faire ça. Je récupère les questions. Tu vois, le mardi, ils posent des questions.
Quand tu dis personnalisé, tu l'envoies qu'à l'étudiant ou à toute la classe?
Il y a plusieurs solutions. Soit tu peux le mettre dans une fac globale et au départ, tu l'envoies sur un groupe, mais après, tu t'organises une fac et t'envoies. Je leur apprends à toujours poser les questions de la même façon, de manière à les archiver dans une fac, parce que tu vas te rendre compte que première année, bah, tu as plein de questions. La deuxième année, tu as 90% des questions qui ont été posées déjà. Donc là, c'est pareil. Et de garder cette capacité qu'ils ont de les récupérer en retapant dans un moteur de recherche comment faire cela, comment faire ceci, pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela, bah, tu les retrouves très très vite. Et moi, j'aime bien les personnaliser. Tu sais, j'aime bien dire, bah, écoute, là, j'ai eu cette question. Puis je mets le prénom, tu vois. Et puis je dis, ben voilà, la réponse, c'est ça. Et là, en vérité, ça m'emmerdait de répondre et d'écrire. Je perdais du temps. Après, j'ai dit, je vais parler, parce que bon, podcast audio, ça va, j'adore ça. Et puis je me suis dit, non, mais c'est pas assez. Il faut que je lui parle en le regardant, le gars.
Ouais.
Et ça a un impact énorme, énorme.
Sur la motivation.
Ouais, et puis toi, tu peux en taper un maximum. C'est pour répondre à 10 questions, il ne faut pas 3 heures. Hein. Ça va hyper vite.
Moi, j'ai vu j'ai testé, on a joué tous avec ces outils-là, mais la première fois où j'ai eu un impact très très fort avec les vidéos, c'était sur une vidéo de consigne, sur une deuxième séance, sur un cours entièrement en ligne à des étudiants qui étaient sur mon campus à l'Université de Lyon. Et j'avais commencé le cours la semaine 1 et j'avais, sur 50 inscrits, il y en a 40 qui étaient venus, il m'en manquait 10. Donc, la deuxième semaine, tu commences à râler, les gars, il y en a 10 qui n'ont pas travaillé, il faudrait peut-être vous y mettre, là, c'est important. Mmh. Et la troisième semaine, il m'en manque encore 5. Et là, j'étais jeune et fougueux à l'époque. Je mettais la photo de mes élèves, des étudiants qui s'étaient pas connectés avec un mot wanted dans Western. Je dis bon, là, si vous les croisez dans le couloir, faut leur dire qu'il faut bosser maintenant, hein, et ça suffit.
Allez, on y va.
Ah, mais instant, une heure après, j'avais des mots d'excuses. Hein. Ah, mais ouais. Je savais pas, je devais travailler. Bon, ouais, c'est un peu lourdingue, mais c'était très, très, tu peux avoir un impact hyper fort. Il y a une autre chose aussi. Que j'ai appris on a fait tous des erreurs, hein. C'est au démarrage, les premières fois que j'ai fait faire des vidéos aux étudiants, c'était dans les années 2008-2009, quand ils commençaient à avoir des smartphones, quand ils commençaient à pouvoir monter par eux-mêmes, des choses comme ça. Mmh. Donc là, ça date un petit peu, mais faut que tu aies dans ton public, tu aies une certaine maturité technologique pour arriver à maîtriser un peu la vidéo. Alors, c'est peut-être pas dans tous les publics, mais ça, maintenant, dès le lycée, tu arrives à faire des choses sympas. Hein. Et dans tous les pays, hein, y a toujours un qui a un smartphone, qui a de bonne qualité, il y a toujours dans le groupe qui sait bricoler, qui sait faire un peu de montage, etc., etc. Et la première fois que je suis parti dans un délire, les gars, on va faire des vidéos, j'ai donné des consignes. Bon, vous allez me faire une vidéo, je vous mets 3 thèmes ils étaient en IUT, j'ai dû donner 10 thèmes dans un wiki, vous choisissez les thèmes et vous me faites la vidéo, puis vous les montrez la semaine prochaine. C'était des cours une fois en présence, une fois à distance. Et la prochaine fois qu'on se voit, on regardera les vidéos ensemble. Et au bout d'une semaine, les autres collègues de l'IUT me rappellent, ils me disent, non, mais qu'est-ce que tu as fait à tes élèves? Qu'est-ce que tu as mis comme projet? On les voit plus en cours, ils sont débordés parce que tu as. Ben non, moi j'aurais demandé de faire une petite vidéo, 3-4 minutes. Ah non, mais jour et nuit, ils y bossent, on les voit plus, ils viennent plus parce que tu leur as donné un gros projet. Ah merde. Tu vois, j'avais pas été assez explicite.
Eh ouais.
J'ai dit, faites-moi une petite vidéo sympa. Et ils y ont passé, mais des jours et nuits entiers à faire des trucs. Et c'est la première fois que j'ai demandé des travaux à mes élèves. Alors là, ça leur a bouffé un temps fabuleux, mais j'étais scotché par les retours, c'était absolument génial. Bon, après, j'ai bridé parce que je dis, vous passez pas plus de temps, donnez des consignes, la vidéo doit pas faire plus de 2 minutes, ne me programmez, parce qu'il y en a qui étaient allés jusqu'à me programmer des environnements 3D avec des avatars qui se baladaient dedans, enfin, c'était parti en délire. Hein. Ne me faites pas ça, faites des choses simples, juste des questions, mettez-vous en situation assez rapidement, ça doit pas demander plus de temps de travail élève, par élève. Donc, tu vois, on fait tous des boulettes. Et la première fois que j'ai passé des consignes, faites-moi une vidéo, j'ai pas cadré. Et mon attente est le travail étudiant. J'ai pas été assez explicite.
Souvent, moi, ce que je fais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au départ, par exemple, tu pourrais leur dire, tiens, vous regardez cette vidéo, je veux quelque chose à peu près comme ça. Et là, elle fait 2 minutes, elle est courte, c'est du shortcut, il n'y a pas de transition d'enfer, tu vois. Et ben, souvent, tu leur montres le résultat escompté, ça les aide vachement, ça les pilote bien. Et la vidéo, pour ça, c'est pas mal. Parce que
y a plein d'activités avec des vidéos.
Ouais, je vais te donner un exemple, moi, j'ai formé des formateurs pendant des années, là, puis j'en ai un qui travaille dans un système agricole, là. Il me dit, écoute, Laurent, ils partent en stage dans des fermes, ils font des trucs, et puis après, il faut qu'ils fassent un rapport de stage. Bon, c'est pas des littéraires, c'est toujours nul, machin, le truc. Ça les angoisse, moi, j'ai pas les résultats, enfin, c'est moche. Et en déconnant, je lui dis, écoute, ils ont tous des smartphones, t'es qu'à leur dire qu'il faut qu'ils, pendant qu'ils sont en stage, qu'ils filment ce qui leur paraît important. Un truc incroyable. Moi, il m'a fait venir pour un gars qui était dans un élevage de bovins sur les vélages. Un gamin, il m'a dit celui-là, c'est pas le plus loquace et c'est pas le meilleur en littérature. Hein. Mais il me dit, ouais. Par contre, il nous a fait un truc. Il a fait qu'assembler des bouts de vidéo. Hein. Il a pas fait de montage. C'est pas le mec, c'est pas Avatar, hein, qui nous a fait. Ouais. Et il me disait, incroyable, ce gars-là, comment il est venu nous présenter ce qu'il avait fait. Parce que c'était ça, le truc.
Ouais.
C'est cette espèce de fierté de dire, t'as vu, c'est important de faire ça. Puis vous avez remarqué, là, le gars, il est posé comme ça, le vétérinaire, il fait ça. Et il m'a dit, c'était incroyable la dynamique que ça avait créé autour de ce contenu-là, tu vois. Alors, quand tu leur disais de rendre, ouais, le rapport de stage, ils y baissaient tous la tête, tu sais.
Oui, parce qu'on aborde un sujet un peu compliqué, c'est les nouvelles compétences des élèves, des étudiants et des apprenants. C'était que les nouvelles générations, ils n'ont pas les mêmes codes que les générations d'avant. Ils sont moins dans l'écrit, ils sont plus dans l'oral, ils sont plus dans la mise en scène, ils sont plus dans l'image. Et ça, si tu leur demandes un rapport, ces compétences-là, tu ne les utilises pas.
Ah oui.
Tu utilises des compétences qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont pas envie, qui ne les motivent pas, qui pensent passéiste, etc. Après, c'est peut-être important dans certains métiers d'avoir ces compétences de rédaction, de réflexion, de poser en écriture. Mais dans les métiers, comme tu décris, techniques, pouvoir expliquer, montrer des choses, c'est peut-être plus important que de savoir les écrire. Mmh. Et donc là, on est sur de nouvelles compétences. Et avec ces outils-là, on peut, comme tu le dis, il y a des élèves, des étudiants, des apprenants qui vont pouvoir montrer ce qu'ils savent faire, leur savoir-faire et vraiment exploiter ces nouvelles compétences-là. Enfin, je dis nouvelles, elles sont plus trop nouvelles, mais c'est par rapport à un rapport, elles sont nouvelles, quoi.
Voilà, et puis toi, dans l'évaluation que tu fais en tant que formateur, tu vois bien s'il a retenu l'essentiel, quoi.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il doit retenir ? Est-ce que ce qu'il montre, c'est ce qui doit être retenu ? Ben, ça, c'est un super système d'évaluation, ça.
Et puis ça doit être scénarisé, ça doit être argumenté, ça doit y avoir un déroulé. Tu peux aussi le cadrer. Pour cadrer ces travaux-là, quand on a beaucoup d'étudiants, quand on demande une production, j'ai des cas avec des classes de 120 élèves, des cas de des cohortes d'étudiants de plusieurs dizaines. Hein. Tu vas pas demander à chaque un de faire une vidéo individuelle parce qu'à corriger. T'as 120 élèves, 3 minutes chacun, tu vois.
Ça te fait les vacances, quoi.
T'es content. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler en groupe et de leur faire faire des travaux de groupe. Donc, t'as des formats assez sympas de Web TV, d'animer chacun un petit journal sur la formation, d'animer des péchakouchas. Les péchakouchas, tu fais sur pechakoucha.org, tu verras, t'as des milliers de vidéos un peu comme sur YouTube. C'est un format de présentation, t'as 20 slides et 20 secondes par slide. Donc, tu dois avoir ta rhétorique visuelle et orale doit être synchronisée. Oui. Et donc, t'as tes slides qui montrent une notion, un concept, et puis tu décris ton cours, enfin, tu donnes un sujet et t'obliges l'étudiant à répondre en péchakoucha ou les étudiants à répondre en péchakoucha. Et là, ils s'organisent. Il y en a un qui fait la slide 1, l'autre qui fait la slide 2, mais il faut que ça soit cohérent, il faut que ça raconte une histoire, il faut que ça soit construit, il faut que ça soit écrit. Et tu vas sur péchakoucha.org ou tape péchakoucha sur YouTube, tu verras plein de présentations de ce mode-là. Et au départ, ils crient au scandale que tu les brides et tout ça, mais en fait, c'est hyper structurant parce que ça leur donne un cadre. Et ça leur donne une durée. Et en travail collaboratif, c'est quelque chose d'assez génial à faire avec des groupes, parce que là, ta consigne, elle est précise. Tu vois, t'as 6 minutes 40, ta slide est dure, elle vous changez, faut que ça soit. Et tu travailles sur la communication, sur l'oral, sur le déroulé du truc, et ils se focalisent plus sur la forme, mais vraiment sur le contenu.
Ouais.
Donc, c'est des petites astuces qui marchent vachement bien, qui permettent de faire travailler plusieurs groupes sur un péchakoucha. On peut mettre jusqu'à 10-15 élèves, hein, personnes dessus. C'est des choses qui marchent super bien. Et pour aussi, si on est dans le cadre de la production élève, hein, et apprenant, moi, je mets toujours en place des workflows de production. Alors, ça veut dire quoi? Tu mets dans les plateformes, ça peut être des wikis, ça peut être des blogs, ça peut être des espaces de rédaction où tu peux gérer ça maintenant sur des outils comme Notion. C'est génial, tu te crées une tâche, tu dis voilà, bah la première semaine vous devez faire le storytelling et puis t'as accès au texte. Ensuite vous devez commencer à argumenter, à faire les références biblio, à faire les machins. Et il commence à alimenter des choses. Et toi tu retrouves les éléments à l'intérieur et tu peux discuter par rapport à ça. Dire ouais. Bah, vous êtes sur la bonne voie, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ils commencent à produire entre eux, donc ils peuvent déposer les vidéos, les rushs. Hein, et puis après il y en a qui vont commencer à faire la post-prod. Donc tu vois, tu les outils aussi pour travailler en dans cette dimension-là, quelque chose qui se construit, ils peuvent le visualiser, ils peuvent le mettre en application ensuite dans leur métier de tous les jours.
Oui, et puis ça vient à renforcer toutes les soft skills de collaboration, de comment négocie, de comment on décide, est-ce qu'on collabore, est-ce qu'on coopère. Enfin, c'est des notions essentielles qui sont recherchées hein, dans le monde
alors,
du travail.
Si vous faites ça sur un Moodle, ça va être une tannée à monter parce que c'est pas fait pour. Vous allez passer des jours à programmer ça. Ça se fait, je l'ai fait, mais voilà. Sur un Notion, je suis pas sûr que ça soit très RGPD, mais en 3 minutes, vous faites 10 fois mieux.
C'est plié, voilà. Ouais. Et en plus, Notion, on peut le partager comme un mini site web. On peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi.
Ouais, c'est assez hallucinant tout ce qu'on peut faire avec ça. Ouais.
Nous, d'ailleurs, à bosser avec. Quand on a
compris, fait une causerie là-dessus, mais ça vaudrait peut-être le coup de.
Ouais, ça vaudrait peut-être le coup qu'on y aille parce que moi, j'en suis un fervent utilisateur. Et moi, je suis venu dessus après avoir testé tout ce qui se faisait, hein, une dizaine d'outils pour l'entreprise. Et la capacité qu'on a à partager et à tout mettre sans restriction, c'était ça. C'est du drag and drop, tout ce que tu veux, quoi.
Ouais, puis il y a un côté assez hallucinant où comment ça s'appelle de mise en abîme du contenu. Tu sais, quand tu filmes un miroir qui est dans un miroir et ça s'arrête plus. Là, tu mets par exemple ta base de données, ça peut être aussi un Trello, ça peut être aussi un wiki, ça peut être aussi chaque élément dans ta base peut être une page wiki. Enfin, et chaque élément est accessible par web, tu peux le partager. Chaque base de données peut avoir plusieurs vues. Une vue, tu peux la donner à un tel, une autre vue, tu peux la donner à un autre. Enfin, tu fais des extractions dans tous les sens. Tu peux mettre des taquets de gestion de projet dessus. Enfin.
Ouais, il a du grand intégré, on a tout quoi, on a tout pour bosser avec ce truc là. Puis après la dimension d'intégrer des bases de données dans des bases de données aussi, ça c'est un truc justement pour faire ces mises en abîme.
Et ce qui est aussi intéressant pour les gens qui connaissent pas, on va sur YouTube et paf, Notion tuto et brout.
Allez en avant. Et Notion formation complète, je fais de la pub. Choubam Sharma qui vous propose une formation Notion complète et gratuite. C'est un truc. J'adore comme il présente ses cours. C'est super attractif. Il sourit tout le temps. C'est un mec super gentil. Ça peut consommer sans modération.
Et donc, balancer vos élèves, vos étudiants, vos apprenants là-dedans, c'est hyper formateur. Parce que tu sais, toi, les éléments structurants, les éléments, tu peux donner des trames comme ça, et ça permet de cadrer la production de contenu, et toi, d'avoir un suivi. Parce que nous, le rôle d'accompagnant,
c'est de voir.
De voir le processus. S'il part bien sur le bon rail, s'il s'égare pas entre temps et choses comme ça. Donc, si on structure ça, on peut suivre le processus. Ouais. Ça, c'est dans le cas de cette production de vidéo étudiante, c'est hyper important. Je vais en revenir aussi. Là, je suis bavard. Hein.
Je t'en prie. Hein. On est là pour causer.
mais des fois, sur deux choses aussi importantes, c'est sur la production de contenu de la part d'enseignants et ensuite. La post-production, j'en ai pas encore assez à parler, ou des usages et des partages de. Quand je dis post-production, c'est pas dans le sens où je mets des sous-titres, où je mets de la musique et je fais du montage. C'est j'ai réalisé ma vidéo. Est-ce que je la laisse à mes élèves uniquement ou je la diffuse à d'autres institutions et comment je la diffuse mais sur la réalisation, je vais d'abord parler de la réalisation. Il y a plusieurs moyens de faire d'une vidéo pédagogique. On peut faire avec OBS. Mais dans la pratique, OBS ou Camtasia, des outils qui enregistrent, qui utilisent votre ordinateur pour enregistrer les vidéos. On peut le faire aussi directement dans PowerPoint. Ouais. Dans PowerPoint, il y a un petit bouton, enregistrer ma présentation. Vous faites votre blabla, vous déroulez votre vidéo. À la fin, vous sopez la présentation. Ça fait un MP4. Hop, vous la poussez en ligne. Ou alors, dans votre PowerPoint, vous mettez des vidéos, vous mettez du son, vous mettez des choses. Et puis, au fur et à mesure, et puis à la fin, vous faites enregistrer en MP4. Donc, il y a soit le synchrone sur la synchrone sur PowerPoint. avec OBS, on peut mélanger des scènes, on peut faire pas mal de choses, des captures d'écran. Camtasia, c'est un logiciel de capture d'écran. On peut remettre ça, même ça avec OBS, sa petite webcam, des trucs comme ça. Donc, ça, les trucs basiques. Mais, et simplifié. Il y a même des sites web maintenant. Il y a plein de sites web qui font comme une espèce de zoom. On s'enregistre sur le site. Ça. Tu dis, je prends mon PowerPoint, je prends mon écran, etc. Mais dans la pratique, quand on a des communautés d'enseignants, il y a que 10-15% max des enseignants qui arrivent à se dépatouiller avec ce bazar-là. Ouais. Et le rendu n'est pas toujours de super qualité. Il y en a qui arrivent en y passant du temps.
Ça manque d'uniformité aussi.
Sur les institutions, ça peut manquer d'uniformité.
Ouais, c'est ce qu'on remarque.
Et surtout, ça manque de vie. C'est-à-dire que c'est des trucs un peu figés, c'est un peu lourdingue à mettre en place. Donc, il faut voir dans les institutions si votre institution investit dans un petit studio vidéo, un truc comme ça, où là, vous avez juste votre préoccupation à faire la vidéo et après, elle est poussée en ligne et puis c'est basta, c'est plus votre. Enfin, c'est un gain de temps pour l'enseignant qui peut être assez considérable. Moi, je sais que j'ai monté plein de studios vidéo dans différentes institutions. Avec des systèmes de réservation en ligne, de badge magnétique pour que le prof y rentre quand il veut, parce qu'il y en a qui venaient la nuit, il y en a qui venaient le samedi, le dimanche. Faut qu'ils soient autonomes. Comme ça, je vais pas venir travailler la nuit, les accompagner le samedi, le dimanche. Une fois, j'ai monté, enfin, un truc en 5 minutes, une fois, il a compris comment ça marche, il se débrouille tout seul. Et c'est beaucoup plus simple que, un OBS qui démarre pas tout le temps, qui se met à jour, gna gna gna.
Ton ordi qui plante.
Ouais. Avoir des solutions comme ça.
Il y a quoi comme solution? Tu fais quoi là? Tu crées un studio, tu mets les caméras en place, et un disjoncteur et t'appuies sur on. Ou c'est quoi un petit peu qu'on va trouver comme.
Alors il y a des universités qui font ça avec OBS.
Ouais.
Avec un fond vert, t'arrives, tu fais contrôle machin, contrôle S, contrôle start, ou je sais plus quoi. Donc ils ont fait une série de, si je crois, une série de codes sur le clavier. Donc la personne est là sur les claviers et ça démarre. Donc ils ont mis, je crois, il y a une université qui a mis une dizaine de studios comme ça, hein, avec un OBS, une caméra qui est branchée sur le truc. Il y a des bidouilles maison, il y a des studios. Moi, j'ai monté des gros studios. On avait un gros studio à Lyon avec 3 caméras, une grosse régie Tricaster qui coûtait des dizaines de milliers d'euros, avec un fond vert de 20 mètres carrés. Mais on faisait quoi, 3-4 heures de vidéo par mois là-dedans, donc c'était pas terrible. T'as des solutions intégrées comme RapidMook et comme Calisé. Je sais pas s'ils proposent encore Calisé. À l'époque, ils faisaient ça. Où là, c'est tout dans une boîte. T'arrives, t'as un grand écran devant toi, puis t'appuies sur le bouton démarrer tout, pouf, ça allume les lumières, le son, la caméra et l'ordinateur. Et tu dis, bah ouais, je m'appelle machin, tu t'identifies si t'es connecté avec ton ENT. Donc du coup, ça poussera tes vidéos dans la bonne plateforme de vidéo de ton établissement, dans ton endroit à toi, si tu veux. T'appuies sur le bouton, enfin tu branches ton PowerPoint ou ton ordinateur si tu veux faire un tuto, enfin ce que t'as à ton écran, et toi tu te retrouves incrusté dans ton écran. Donc tu as des solutions qui font ça. C'est celle-là qui marche le mieux. Hein. Bon, c'est peut-être pas les moins chers. OBS est beaucoup moins cher, mais à terme, à gérer quand on encadre des équipes, c'est celle-là la plus sympa.
Oui, parce que OBS, quand tu arrives dessus la première fois, effectivement, les scènes, les changements de scènes, moi je vois déjà quand j'utilise OBS, on traque à deux. Puisqu'il y en a un quand même qui est de l'autre côté, sur le clavier, qui fait les changements de scène. Hein,
ouais,
changements de vue des caméras, et etc., etc. Donc déjà, ça veut dire que les gens, ils sont synchro, ils savent ce qu'ils font, ils sont à l'écoute. Là, ce que tu proposes, si j'ai bien compris, en gros, je viens, je m'installe, je suis face à un bloc qui me filme, qui m'incruste sur ma truc. Ça, c'est beaucoup plus simple en vérité. Et en plus, si tu peux garder cette histoire de plan américain pour ton... Pour ton enseignant, ça personnalise totalement son cours.
Ouais.
Ça c'est intéressant. Puis ça va vite, il peut se reprendre.
Ouais. Des studios comme ça, on arrivait à produire jusqu'à 10 heures de vidéos exploitables par jour. Énorme. Hein.
Parce que, tu vois, je discutais avec l'autre jour un gars de chez Uno, là, qui est une boîte qui fait de la production vidéo et de la formation, enfin, qui produit ses vidéos. Et le gars, il m'expliquait, on ne fait pas de montage. Hein. On va au bout du bout du truc, on refait les scènes. Hein. Parce qu'il dit, on préfère refaire une scène quand le gars y est, plutôt que de faire des cuts, repasser tout dans Premiere ou dans n'importe quel logiciel, DaVinci Resolve ou autre. Il dit non, non, on perd plus de temps, c'est fini ça. Hein. On fait du one shot, on prend jusqu'à temps que ça soit parfait.
Oui,
et du coup, ils ont mis en place des petites stratégies sur des petites thématiques très courtes qui filment avec un petit cut, hein, parce qu'au bout de 3 minutes, 4 minutes, tu as perdu un peu ce que tu voulais dire. Tu commences à t'écouter quoi, au bout de 3-4 minutes pour voir si tu es bon. Mais le problème, c'est que tu réfléchis plus à ce que tu as à dire.
Ah, ça dépend. Après, j'ai des consignes, c'est-à-dire que je prenais rarement un enseignant plus d'une heure par jour dans un studio comme ça.
Ouais, voilà.
Parce que ça demande beaucoup de concentration, de temps, de maîtriser son cours. Mais ce qui est sympa aussi, si les studios sont un peu grands, c'est que l'enseignant retrouve son style. La suite qui est posée, qui ne bouge pas, qui est assez académique, avec son un peu monocorde. Bon, bah, il est comme ça en présentiel, il sera comme ça sur la vidéo. Puis des énervés comme moi qui vont dans tous les sens, qui en interaction avec ses contenus, des trucs comme ça. Et ça, les enseignants, ils aiment bien, même s'ils sont dans un cadre. Chacun, ils peuvent trouver sa position dans le cadre.
Ils se reconnaissent. Tu vois, ça me donne une idée parce que ça, on l'a pas travaillé, nous, sur le podcast de la formation. Je vais voir pour justement se rapprocher de ce type d'outils pour voir un petit peu pour que ceux qui l'utilisent, qui le conçoivent et tout ça, ils nous en parlent. Je pense que ce serait une bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses?
Contacte ma petite femme ou là-dessus pour te donner les...
Tu filmeras ses coordonnées.
Elle bosse aussi rapidement quand même. Elle fait des trucs.
Dans ce cas-là, c'est très bien. Ouais, parce que j'ai vraiment envie de partager ça avec nos auditeurs parce que en réalité, il faut qu'ils aient cette approche. On parle bien sûr de massification là, de vidéo. On parle de pluri-utilisateurs. On enlève le côté expert de la vidéo, tu vois, pour produire du contenu, quoi. C'est ça.
Ouais, tu te focalises sur le contenu. Et le contenu est de qualité parce que le son est nickel et l'image est nickel. Parce que
c'est ça qui compte.
Il faut qu'un dispositif qui valorise l'image de l'enseignant. Si vous faites des vidéos chez vous, que on entend le bruit de la machine à laver derrière, que il y a les petits oiseaux, que le micro il est pas top, etc., etc., vous serez pas content de la production, les élèves non plus, enfin, ou les étudiants.
C'est ça. Ça fait amateur,
il faut un truc de qualité. L'autre intérêt aussi sur des outils comme ça, c'est que quand tu as un expert contenu, par exemple, lui qui fait pas beaucoup de formation, il a en fait 10 heures dans l'année, ça valorise son image parce qu'il peut repartir avec la vidéo sur sa clé USB, la donner à sa famille, la donner à d'autres, l'utiliser dans d'autres contextes que le tien. Et donc, il y a un vrai intérêt aussi de valorisation de ces moments-là pour les enseignants. Pour les formateurs, pour tes experts contenus, pour dans la formation continue, moi j'ai trouvé que ça a un impact fort parce que quand tu produis des trucs pas terribles, bah tu les gardes pas longtemps, tu les gardes un an ou deux, puis après bah tu les jettes quoi. Si t'as un truc, une belle vidéo qui est bien faite, t'as passé beaucoup de temps et t'es content du rendu, bah tu la gardes.
Ouais, puis je crois aussi que c'est important de valoriser notre expert qui vient parce que pour lui c'est pas toujours une partie de plaisir. Hein. Mais du coup, il vient, il repart avec son expertise. Et puis, quand tu les interroges après, dans l'interaction que tu as eue avec eux, ils sont hyper contents d'être venus partager ce qu'ils savent.
Ouais, parce qu'ils ont appris quelque chose. Ils repartent avec un truc qui est valorisant et valorisable. Alors, c'est là où je voulais en venir aussi. C'est une fois que tu as créé ta vidéo, c'est tu as l'exploitation avec tes étudiants, tes apprenants, tes élèves. Mais tu as un autre type d'exploitation qui est aussi possible, qui est dans la valorisation de ton image à toi.
C'est-à-dire
que tu as fait un contenu qui est de qualité, pourquoi se limiter à ses étudiants, ses apprenants? Pourquoi ne pas en faire une image de marque? Pourquoi ne pas le mettre sur un YouTube, sur un Vimeo, sur un Dailymotion, ou sur un LinkedIn pour montrer ses compétences? Peut-être pas l'intégralité d'un cours d'une heure, mais il y a des moments, des chapitres, des résumés, des pitchs ou des trucs qui peuvent être intéressants qu'on peut réutiliser et se valoriser. Et se créer... chaque formateur, chaque expert se crée une zone YouTube, hein, parce que YouTube, c'est pas uniquement des vidéos qui sont publiques, elle peut aussi les mettre en non répertorié et les diffuser un moment d'une formation, sur une formation en ligne, elle peut les ouvrir, les fermer quand il veut. Enfin, il y a plein de potentialités qui sont hyper intéressantes aussi, qui donnent une autre perspective à nos enseignants. C'est pas one shot, quoi.
Ouais, c'est ça.
On fait pas une fois pour toutes.
Ça c'est super intéressant parce que dans cette espèce d'interaction, mon image, la facilité de la mettre en œuvre, la réexploitation, c'est super important. Hein. Tu le disais tout à l'heure, mais quand tu as créé les cours une première année, l'année d'après, entre guillemets, c'est de l'update. Hein. Tu as dit 10-15% de modif et on capitalise. Tu n'es pas obligé de répéter la même chose alors que tu vas répéter la même chose dans ton cours. Hein. T'as pas de... Ça ne se dit pas forcément de la même façon, mais c'est encore de... En vérité, tu ne massifies pas les choses. Il faut penser à cette scalabilité de nos interventions. Ça l'aide énormément, ça, je pense.
Mais ça, c'est important parce que ça... Tu vois, si tu rentres dans cette logique-là, tu sors de la logique diffusion de contenu, passeur de contenu, pour devenir accompagnant de tes apprenants.
C'est ça.
Toi, c'est ça. Et c'est... Mais oui, mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Tous les formateurs, tous les enseignants ne sont pas capables d'avoir ce rôle-là parce que c'est changer de métier. Hein.
Tout à fait.
Et c'est difficile, mais en même temps, la valeur ajoutée de l'enseignant, elle est là, quoi.
Ouais. Et en vérité, tu crois que c'est difficile, c'est souvent des représentations. Moi, les gens que j'ai accompagnés pour changer cette posture-là, au début, ils ont énormément peur. Ils ont peur d'être pas capables de répondre aux questions qu'on leur pose. J'en dis déjà, tu n'as pas l'obligation de répondre à toutes les questions. Tu peux faire du frigo et répondre demain, si vraiment tu as envie de répondre quelque chose de précis et que tu n'as pas la précision. Mais tu as surtout cette capacité d'être disponible au questionnement et à l'écoute du questionnement de tes apprenants. Et c'est plus important d'écouter ce qu'eux se posent comme question et comment les mettre en question que de leur amener des réponses toutes faites à travers du contenu qui leur passe par une oreille et qui ressort par l'autre. Hein. Moi, j'avais utilisé une vidéo, là, il fallait qu'on parle de la réforme de la formation professionnelle et notamment de la dimension de la formation en situation de travail. J'avais fait deux groupes d'étudiants, là, j'avais travaillé avec un centre à Paris, là, et je leur ai dit de regarder la vidéo, de faire deux groupes, un qui était contre la FEST et l'autre qui était pour, et de venir débattre en visio, pas quelque chose en présentiel. Écoute, on a eu un débat d'une extrêmement grande qualité. Ils m'ont sont juste venus me dire au début, monsieur, mais nous, on fait partie du groupe qui est contre, mais en vérité, on est pour. On voudrait que vous le sachiez, tu sais, pour pas qu'il y ait de confusion. Et je dis, ok, j'ai compris. Et ben, du coup, j'avais prévu un quart d'heure. Je m'étais dit un quart d'heure, un petit peu, en visio, deux groupes, la prise de parole, c'est un peu compliqué. On a fait 45 minutes. J'ai fini par leur dire, écoutez, vous avez plus appris que ce que je pensais vous enseigner. Donc, mission accomplie. Eux, ils s'étaient régalés. Le sujet les avait intéressés. Bon, c'est des gens qui étaient en master de RH, là, qui avaient pris une option formation. C'était important pour eux, la dimension de la loi. Et c'est quelque chose qui n'est pas très sexy, quoi. T'as pas envie d'y aller. Et là, la vidéo, c'est vous êtes spectateur et derrière, c'est vous qui faites le débat, quoi. C'est un truc. C'est génial, quoi. Franchement.
Et donc, pour ceux qui sont un peu réticents à se lancer là-dedans, c'est vrai qu'il y a un petit cap technologique, un petit cap rédactionnel à passer, mais c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup. Hein. Le fait aussi de mettre sa production, moi, j'ai une chaîne YouTube, j'arrive au million de vues. Donc, tu as l'impression d'avoir fait des choses qui intéressent les gens. Après, ils viennent te reposer des questions, ils viennent partager avec toi. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui peut être valorisante à long terme pour le travail fait, quoi.
Ouais, et tu sais, c'est des choses qu'on ne mesure même pas au début quand tu fais ça. Jamais, je pense que tu t'es dit, bah, tiens, ma vidéo, je vais la partager. L'objectif, c'est de faire des millions de vues. Bah, pas
non.
Du tout, quoi.
Surtout sur les sujets qu'on traite.
Bah, c'est ça. Tu sais, regarde, nous, on a eu la même chose avec le podcast. Quand on a créé le podcast, cette idée de podcast qui est une niche, hein, c'est la formation, on ne pensait pas avoir des milliers d'écoutes. On se dit... avoir des milliers d'écoutes, c'est un truc de fou, quoi. On est abasourdi par ça, quoi. Et l'objectif, c'était pas de faire des milliers d'écoutes, c'était de partager avec des gens bienveillants des tips pour les formateurs et formatrices, quoi, au départ. Tu vois. Et ça c'est vraiment génial, quoi. Parce que on voit que là, tout ce qu'on produit, cette documentation multimédia, bah, elle est importante. Les gens la partagent, ils l'écoutent, ils la regardent. Enfin, c'est très formateur. Hein. Ça me refait penser à ce que tu me disais sur YouTube au départ. J'ai deux filles qui ont 2 ans d'écart, et puis quand elles avaient 10-12 ans, la plus grande vient me voir, elle avait des tresses magnifiques sur la tête, et je lui dis, bah, c'est super, comment t'as fait ça? Elle m'a dit, c'est pas moi, c'est ma sœur. Donc sa petite sœur arrive, je lui dis, ah, mais c'est trop bien, comment t'as fait ça? Elle me dit, papa, c'est super facile, il suffit que tu regardes sur YouTube. Ouais, évidemment, à 10 ans. Et puis, ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'elle m'a dit après. Elle est revenue 10 minutes après, elle me dit, tu sais, papa, bah, si l'école, c'était sur YouTube, on pourrait apprendre plein de choses.
Mais elle y est sur YouTube.
Bah ouais, tu vois, maintenant...
C'est la Khan Academy. Voilà.
C'est si
tes parents d'élèves, tu vas sur khanacademy.fr, Tu dis, ben voilà, j'ai ma fille qui est dans telle classe, et tu peux lui proposer un parcours en complément de ce qu'elle fait en classe.
Ah ouais, c'est génial.
Basé uniquement sur des vidéos, alors en mathématiques, en physique, dans tous les domaines, il y a des trucs assez, des documents assez hallucinants. Il y a tout un parcours pédagogique proposé sur la Khan Academy. Hein. Mais t'en as d'autres hein, qui fonctionnent comme ça. Il y a les DigiSchool, qui est une start-up à Lyon, qui est plutôt une start-up, qui est une entreprise qui a produit tous les contenus du collège jusqu'au lycée, de tous les cours, qui propose tous les cours, le code pour la route. Enfin, il y a énormément de contenus comme ça, de boîtes qui proposent des contenus spécialisés dans les formations. T'as tous les cours d'école d'infirmière qui ont été filmés. Enfin, en vidéo, c'est assez infini aujourd'hui. Hein.
Ouais, on est vraiment...
Alors, en tips, il y a un truc que j'ai oublié de dire sur comment réaliser une bonne vidéo. On pourrait peut-être faire un autre podcast parce que là, je vais partir pour encore une heure.
Vas-y, et puis on va se refaire une causerie. Hein. Je me sens bien, moi.
Non, mais les recherches ont montré, alors ça c'est la partie casquette chercheur, que le discours le plus assimilé par le cerveau, celui qui est le mieux mémorisé, c'est le discours de la vie quotidienne. Ouais. Et donc essayer d'avoir dans ces vidéos non pas un discours en poulet, un discours académique, mais de parler comme si les élèves étaient là, comme dans la vie quotidienne, avec des intonations, des montées en voix, des choses comme ça. Et c'est ce que les gens y retiennent, parce que là l'élève à l'apprenant retiennent le mieux. Donc il y a des trucs aussi comme ça. On veut faire trop bien, mais la cible c'est l'apprenant, hein, c'est pas.
C'est ça. Voilà. C'est pas avoir l'air plus intelligent que ce qu'on dit.
Ouais.
Non, au contraire. Tu vois, moi je fais de l'écriture. Hein, je viens de l'écriture. Cette dimension d'écriture conversationnelle hein, que moi j'utilise dans mes pratiques du web, c'est totalement ça. Écris quelque chose, il y a une petite astuce que je donne aux gens, vous l'avez écrit, dites-le à haute voix, voir. Et des fois, tu te rends compte, tu dis, ah non, mais je dis jamais ça, moi, ce mot-là, je l'emploie pas. Bah justement, c'est bien ça l'idée. Enlève-moi tout ce qu'il y a autour et dis-moi quelque chose de simple, là, comme si tu m'expliquais quand on est en train de discuter simplement tous les deux. Et c'est une clé qui marche, tu vois, la vidéo, ça marche super bien comme ça. L'écriture inclusive, enfin l'écriture, ce qu'on appelle la microcopie, c'est pareil, hein. Et on a cette relation avec le client, regarder, écouter les mots qu'il dit, reprendre son vocabulaire et donc s'adapter à ses étudiants. Hein. On n'est pas là pour pas qu'ils comprennent ou pour qu'ils croient qu'on a un savoir divin, tu vois, qui n'est pas accessible. Hein. Non, on est là justement pour vulgariser les choses, pour qu'ils puissent nous poser des questions, pour qu'ils nous interpellent de leurs questions. Parce que ça, je trouve que c'est... J'adore mettre en question les gens, moi, parce que c'est... Qu'est-ce que tu ferais à la place? J'avais une sale manie, je leur disais toujours. Ils venaient me poser une question, est-ce que vous savez que vous avez déjà la réponse à la question que vous venez me poser? Ah, au début, ça les surprenait un peu. Après, ils venaient me voir en me disant, bon, écoute, on vient de demander un truc, mais on sait qu'on a déjà la réponse, mais on voudrait vérifier quand même. Tu sais, ce petit côté. J'ai besoin quand même d'une validation. Voilà.
Il y a un dernier point là qui me vient en tête pendant qu'on discute, c'est le. Dans la scénarisation de ta vidéo, est-ce que je fais du synchrone ou de l'asynchrone? Parce que on a vu beaucoup de gens utilisent les Zooms, les Teams, les choses comme ça pour faire du synchrone, et je suis pas sûr que ce soit le meilleur vecteur de diffusion de contenu, ces moments synchrones. Est-ce que ce serait pas mieux de faire ce que moi j'ai appelé les séances de débriefing en synchrone, les séances de remotivation en synchrone, de réquestionnement en synchrone, plutôt que de faire de la diffusion de contenu où la qualité est pas toujours optimale parce que on se voit pas tous, il y a toujours du bruit derrière, des bruits de fond. Donc là, le rôle du synchrone, le contenu et le synchrone, essayer de sortir de ce délire qu'on a eu pendant le Covid et puis qui perdure un petit peu et qui fait que l'enseignement par Zoom c'est pas top. Ouais, parce qu'on diffuse des contenus et moi je pense que c'est pas la meilleure façon de faire pour diffuser le contenu. C'est plutôt de l'asynchrone qu'il faut proposer. Ouais. Alors ça peut être de l'asynchrone sur la journée hein. C'est-à-dire ça. Le matin on fait un Zoom en disant bah les gars aujourd'hui il y a ça à faire. Les gars ou les filles, hein. Vous travaillez tel, vous avez 3 heures d'enchaînement d'activités, il y a une demi-heure de vidéo, un exercice à faire, un PDF à lire, un règlement à aller chercher, un petit Notion à remplir, et puis après on se retrouve à midi, on voit où vous en êtes, vous allez me poser des questions, etc. Ou entre temps, vous m'envoyez un mail, et là on fait des moments synchrones. Voilà.
Ouais. Ouais. Et en plus, les moments synchrones, là, ils ont un avantage. Tu valides l'avancée du travail de l'étudiant. Mm. Tu valides le travail qui est fait. Donc, comme ça, tu n'as pas de traînard. Tu les relances. Tu évites les blocages. Nous, on avait mis ça en place. Le matin, une synchrone d'explication et de validation de la compréhension. Travaille tout seul en asynchrone pour eux. Hop, et on revenait à 11h30 faire le point. Où vous en êtes? Qu'est-ce qui s'est passé? De manière à relancer et puis à maintenir cet intérêt. Et redémarrage 13h30. Est-ce que tout le monde est là? On est bien là? C'est parti? On continue. Et puis après, 16h30, redébrief. Et ça, c'est vraiment un bon timing, ça.
Ouais.
Parce que la difficulté, tu sais, des fois, tu ne sais pas où ils sont, quoi. Alors que là, il faut qu'il soit passé quelque chose. Parce que tu leur demandes de livrer en même temps. Hein. Ils livrent de la production. Ils livrent là où ils en sont. Donc, c'est sympa aussi, ça.
Et donc, quand on scénarise des dispositifs, hein, présentiel, semi-présentiel, synchrone ou asynchrone, il y a un côté hyper structurant à voir. J'en reviens à ma catégorisation des moments et des types de vidéos, parce que ça te donne un rythme. Hein, ouais. L'idée, c'est d'avoir, je ne suis peut-être pas assez répété, je n'ai pas dit même d'ailleurs pendant le podcast, c'est le clé de réussite de la pédagogie, c'est d'avoir un dispositif où on propose des activités variées. Oui. Une variété d'approches didactiques et pédagogiques qu'on propose à nos apprenants. Et là, avec ces petits modèles-là, en disant, si je fais que du contenu, je serai dans un registre comme ça, il faut que je propose une animation, il faut que je propose de la motivation, il faut que je fasse des feedbacks, toi. Et on joue sur plusieurs autres que registres que de la diffusion de contenu.
Ouais.
C'est pas mal comme conclusion là, sur la vidéo. Là.
Ouais, je trouve que c'est cool. Et puis écoute, je vais me faire plaisir. Je me souviens de ce qu'avait dit M. Marcel Lebrun, et ça me fait plaisir de le nommer là.
Ouais.
Ce qui compte, c'est la variété. Ouais. Parce qu'un truc qui marche, la quatrième fois que tu le fais, il marche moins bien.
Mec, exactement.
Ça marche. Et ouais. Du coup, ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup travailler l'esprit, moi. Parce qu'effectivement, quand ça marche, t'es vachement content. Et là, tu te dis, il faut quand même que je change. Donc, ça te fait repenser ton approche pédagogique.
Il y avait une conférence, un personnage un peu comme Marcel, mais encore plus truculent. Je ne sais pas si tu connais, il s'appelle Pierre Dillembourg.
Ah non, alors là, non.
tu ne connais pas Pierrot. Pierre, c'est... taper Pierre Dillembourg. Il n'y a pas beaucoup de conférences filmées de Pierre parce que c'est des moments à vivre en direct, c'est assez hallucinant. Il en avait fait une extraordinaire qui s'appelait la Samarchologie. On est en plein de ce que tu es en train de dire. Ouais. Où il avait mis en équation les facteurs de réussite dans une classe qui avait été filmée au premier Ludovia Suisse et ils n'ont pas mis ça sur YouTube et je le déplore. C'était sur une chaîne éducative suisse qui a fermé depuis sur leur serveur à eux. Et là, on a perdu un grand moment. Mais Pierre Dillembourg, il a aussi dans cette veine-là de Marcel. La mise en pratique de ce qui se passe et autour de l'usage du numérique en classe, c'est quelqu'un qui est d'une créativité énorme.
Ah, super.
Si tu ne connais pas...
Je vais aller voir.
Je t'enverrai, il faut que je retrouve... Mais c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui n'est pas assez connu parce que je ne sais pas il fait des super conférences, mais je ne les retrouve jamais en ligne. Ah. Et ça, c'est ballot.
Oui.
Ballot. Alors, quand il s'est fait filmer, la conférence a été perdue. Tu vois, la seule fois où je dis la Samarchologie, on l'a gardée 3-4 années en ligne. Je m'en servais souvent et j'aurais dû la pirater, ça. Parce que, souvent on se dit sur YouTube, il y a des super trucs que je ne retrouve pas. Il y a plein d'astuces pour récupérer les vidéos. Ouais. On n'a pas le droit, mais je vous conseille quand même, c'est comme des bons livres. Oui. Du bon vin, le mettre dans le coin dans la cave, le mettre dans un coin sur votre disque dur, ça fait pas de mal parce que le jour où vous l'avez plus, où vous êtes en présentiel et puis il n'y a pas de réseau, c'est toujours bon d'avoir sous le coude.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Écoute, Christophe, je te remercie. J'espère que, comme moi, nos auditeurs ont pris beaucoup de plaisir, ont appris plein de choses. Et puis, écoute, on n'est pas à même de ne pas refaire une petite causerie, quand même.
Ouais, petite, ouais.
si ça te dit, on va faire un petit teaser, là.
Ah, moi, je suis partant, moi. J'ai plein de trucs à raconter sur tout ce qui est intelligence artificielle. Ça me branche bien.
Ouais, écoute, on pourrait y aller sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet que je n'ai pas abordé. Parce que j'arrive pas à me faire aux experts autoproclamés de ça fait 15 jours que j'ai acheté le livre et que je sais faire. Par contre, une vision beaucoup plus large des usages, comment ça peut être appréhendé, les différents éléments, tout ce qui peut être autour de la RGPD, de vraiment de la création de contenu, de l'optimisation de qui on est, bah écoute, je pense que ça sera un super sujet à faire. Ouais. J'ai l'air en plein dedans, donc je pense que je ne vais pas hésiter.
Ça fait deux ans que je gratte, là. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'impact sur le processus de changement. C'est ça, toi, je t'ai parlé du web, je t'ai parlé du streaming vidéo, je t'ai parlé des techno-vidéos. Ça a un impact sur le... Et c'est ça qui m'intéresse. Peut-être pas tant la technique, c'est bien de vous regarder un petit peu la technique. Moi, je vois deux, trois trucs en IA, je suis pas expert en IA, mais quand je suis pas expert, je connais des gens qui peuvent me donner des trucs. Là, maintenant, j'ai un petit carnet d'adresses assez sympa. Mais qu'est-ce que ça modifie? Comment ça modifie nos métiers? Et là, ça a un impact très fort aussi côté élève.
Ah oui.
Parce que la production, elle change complètement. Les évaluations, les compétences, elles peuvent changer complètement. Et donc, on voit des choses assez aberrantes, des établissements qui veulent interdire.
Ouais, c'est fou.
C'est les gamins qui font un mur de sable quand la marée, elle monte, quoi.
Eh ben, écoute, je pense qu'on va se retrouver sur un podcast de cette, sur ce sujet. Je te remercie beaucoup, Christophe. Hein, et puis, écoute, je souhaite à nos auditeurs une bonne écoute et à très bientôt sur le podcast de la formation.
Eh bien, ça marche. À la prochaine.
Bye bye.